Bienvenue dans Les Bonnes Choses, l'émission culinaire de France Culture qui aborde l'alimentation sous toutes ses formes et qui en décrypte tous les enjeux. Au menu du jour, et bien pour commencer en lieu et place de la Madeleine à 12h15, nous vous proposerons de temps en temps, au cours de ces semaines durant lesquelles les restaurants seront fermés, un petit espace, une bulle pour ces chefs qui ne peuvent plus exercer leur métier normalement. Matteo Caranta ira derrière les portes closes et les rideaux tirés à la rencontre souvent virtuelle de cuisiniers et de cuisinières pour leur demander comment ils ou elles occupent ce temps si particulier pour elles, pour eux, comment ils ou elles transforment leurs activités, s'adaptent, sans oublier bien sûr ce qu'ils et elles mijotent en ce moment. Matteo sera à 12h15 avec le chef confiné Hervé Bourdon. Et tout de suite, nous allons nous pencher sur les fragilités de notre système alimentaire alors que la crainte d'une pénurie a rejailli avec l'annonce du deuxième confinement, tandis que nous importons la moitié de nos fruits et légumes ou les protéines pour nourrir nos bêtes, que se passerait-il si les frontières fermaient? Tandis que nous avons des régions ultra spécialisées qui les rendent dépendantes les unes des autres, comment ferions-nous si les camions s'arrêtaient de circuler? À quel point la France est-elle autonome sur le plan alimentaire? C'est notre plat du jour. Et pour répondre à ces quelques questions, nous sommes avec deux invités dans cette première partie. Nicolas Bricasse, bonjour monsieur.
Bonjour.
Vous êtes chercheur au CIRAD. Alors le CIRAD, c'est le Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour le Développement. Vous êtes titulaire de la chaire UNESCO Alimentation Mondiale. Catherine Darrot est avec nous également. Bonjour madame.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur agronome et sociologue à AgroCampus Ouest, rattaché à l'unité Espace et Société du CNRS. On va essayer d'arranger légèrement le son de votre micro pour bien vous entendre. On part de cette émission avec le prétexte suivant, qui est donc la ruée vers certains produits comestibles, alimentaires, dans les supermarchés de la semaine dernière. Un tweet, par exemple, la semaine dernière, écrit par Michel-Édouard Leclerc, c'est voulu rassurant en la matière. Je le cite, il a dit 1. Les consommateurs, depuis une semaine, se jettent à nouveau sur les pâtes, plus 30%, sur le papier toilette, plus 20%. Mais 2. Pas de panique, il y a du stock partout. Qu'en pensez-vous, Nicolas Bricasse?
Il y a du stock partout, ça dépend ce qu'on appelle il y a du stock. Il n'y a pas tant de stock que ça dans les supermarchés ou dans les usines agroalimentaires parce qu'on fonctionne beaucoup à flux tendu. Il y a du stock qui s'est constitué dans les ménages, notamment lors du premier confinement. On ne sait pas exactement où il en est, mais on n'est pas aujourd'hui, tant que la circulation des marchandises se fait à l'intérieur du pays, on n'est pas menacé par une pénurie.
On n'est pas menacé par une pénurie. Vous êtes, vous aussi, du coup, rassurant. Catherine Darrot.
Oui, je suis du même avis. En fait, l'idée, c'est que on manque absolument pas de produits dans les chaînes qui nous approvisionnent. La question est effectivement plutôt de savoir si ces chaînes sont à même de fonctionner. Pour le moment, l'alimentation fait partie des exceptions pour lesquelles on autorise la circulation des produits, les activités de production. Donc dans l'immédiat, effectivement, Michel-Édouard Leclerc a sans doute raison d'essayer d'être rassurant.
La Fédération du commerce et de la distribution a annoncé qu'il n'y aura pas de problème d'approvisionnement, mais en ajoutant, si tout le monde reste raisonnable. Donc on n'est pas complètement certain, Catherine Darrot.
Voilà, c'est ça un des problèmes, c'est-à-dire que par choix économique, on fait fonctionner les chaînes logistiques à flux tendu, c'est-à-dire avec le moins de stock possible, parce que stocker, ça coûte de l'argent. Donc on a assez peu de marge devant nous pour tenir plusieurs jours d'avance.
Il y a la question des stocks, oui, vous voulez réagir, Nicolas Bricasse?
Non, pas particulièrement, mais c'est vrai que on est aujourd'hui dans un système alimentaire dans lequel certaines entreprises agroalimentaires centralisent une grande partie de la transformation des produits. Donc, si on devait avoir, par exemple, des clusters de Covid dans certaines entreprises, on peut se retrouver avec ces entreprises qui ferment si elles peuvent pas remplacer leur main d'œuvre facilement. Aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé dans certains abattoirs, dans certains États, où on a eu des clusters de Covid qui ont conduit à la fermeture des abattoirs et du coup une augmentation du prix de la viande parce que du coup ça bloquait le système. Donc c'est vrai qu'on est d'une façon générale dans notre système industriel, on est sur un système à flux très tendu. On fait pas beaucoup de stocks. Parce que ça immobilise de la marchandise, ça immobilise du capital et on privilégie la circulation la plus rapide possible. Donc, effectivement, si le transport se bloque, si certaines usines ferment, on peut se retrouver dans des situations de blocage, voire de pénurie. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de réflexions aussi à l'échelle internationale pour reconsidérer la question des stocks et s'interroger de savoir à quel niveau il faut les faire. Est-ce qu'on les fait au niveau des ménages? Est-ce qu'on les fait au niveau des villes? Est-ce qu'on les fait au niveau des États? Mais c'est aujourd'hui une question qui est sur la table des discussions internationales.
Catherine Darrot, à l'instant, Nicolas Bricasse évoque effectivement cette surveillance de la part des autorités, des magasins, des entrepôts, des usines dans lesquelles il peut y avoir des absences, des risques de clusters. Également, la question des transporteurs routiers. On l'a entendu, les transporteurs routiers se sont plaints du fait qu'ils ne pouvaient manger puisque les relais restaurants étaient fermés. Les syndicats ont obtenu dès ce week-end la réouverture de 250 relais routiers partout en France. On voit bien que c'est peut-être moins un problème de production donc qu'un problème de gestion des stocks et d'organisation de l'approvisionnement des magasins.
Oui, tout à fait. En fait, peut-être ce qu'il faut souligner, c'est que la situation est quand même inédite si on met le premier confinement de côté, qui était une répétition générale de ce qu'on vit à nouveau aujourd'hui. Cette question de l'arrêt des transports ou d'un risque d'arrêt des transports est une question qui était peu réfléchie. On réfléchissait plutôt le potentiel productif, la capacité. La grande crainte, c'était plutôt de gérer une crise sanitaire dans la chaîne alimentaire, c'est-à-dire une contamination. Donc au fil des dernières années, même des dernières décennies, on a surtout fait porter beaucoup d'énergie sur le contrôle des contaminations dans ces chaînes, avec ce qu'on appelle la traçabilité des aliments, c'est-à-dire la capacité à remonter cette chaîne depuis l'assiette où il y aurait eu éventuellement une contamination vers l'amont de la chaîne pour trouver l'endroit de la contamination et essayer de le désarçonner. Alors voilà, on a fait porter beaucoup d'énergie là-dessus et on n'a pas anticipé la fragilité de notre système quant à son système de transport, son système logistique en général, qui présente la particularité d'être extrêmement complexe, d'extrêmement intriqué, ramifié. Voilà, c'est un système un peu inextricable, comme une pelote en mêlée, qui fait circuler les produits et les assemble de manière...
Enfin, ça tient quand même. Ça tient. Pour l'instant, en tout cas, ça tient. Nicolas Bricasse, vous pointiez donc cette première fragilité de notre système alimentaire qui est un système donc à flux tendu. On pourrait peut-être parler de ce deuxième problème qui a trait à ce qu'on appelle, d'un terme peut-être un peu pompeux, la souveraineté alimentaire. Nous sommes devenus extrêmement dépendants, même si nous restons la première puissance agricole de l'Europe et même si nous sommes très compétitifs dans la culture des céréales, du vin, des pommes de terre, ou que sais-je encore, 20% de ce que nous consommons sont dépendants des importations aujourd'hui.
Oui, mais je tempérerai un peu votre qualificatif d'extrêmement dépendant, parce que effectivement, on importe encore des protéines végétales pour nourrir les animaux, on importe certains fruits, on importe aussi certains légumes d'Europe. Mais on n'est pas extrêmement dépendant. Si la France demain devait complètement fermer ses frontières pour plusieurs années, elle a complètement la capacité de produire la très grande majorité de la nourriture qu'elle consomme. Oui, ça voudrait dire qu'on arrête de manger des bananes, des ananas, des mangues ou des avocats ou un certain nombre de produits tropicaux, café, cacao et peut-être le thé, mais on n'est pas complètement dépendant. À l'échelle de l'Europe, on est complètement autosuffisant et on a complètement la capacité de nous nourrir. Par contre, là où je vous rejoins, on est extrêmement dépendant des puces électroniques qu'on importe de Chine et qui font fonctionner tout le système, pas uniquement alimentaire, mais tous les tracteurs, toute l'agriculture et toute l'agroalimentaire. On est également très dépendant, et à nouveau de la Chine, mais aussi des États-Unis, des molécules chimiques. Les molécules chimiques pour soigner les animaux, pour traiter les cultures. Alors un des moyens peut-être de se débarrasser de cette dépendance, c'est de se débarrasser de ces molécules chimiques qui nous empoisonnent. Mais c'est là, me semble-t-il, où on a véritablement une grave dépendance. Mais sur la question alimentaire, pour moi, on n'a pas une forte dépendance alimentaire.
Catherine Darrot, sur cette question.
Mais d'un point de vue complémentaire, je trouve que c'est intéressant d'essayer de se rappeler comment cette question s'est posée ces dernières années et comment elle se renouvelle là complètement à la lumière de cette crise. dans les dernières années, le paradigme qui dominait politiquement était un paradigme libéral, où l'idée d'une planification alimentaire, c'est-à-dire connaître ce qu'on mange, connaître ce que l'on produit et essayer de mettre ça en adéquation, était quelque chose qui était tabou presque politiquement dans un contexte libéral où on parlait plutôt de dérégulation, de limitation de l'intervention publique dans ce domaine. Donc, on ne s'est pas forcément doté des moyens d'un contrôle de ces chaînes parce que c'était contraire à ce paradigme libéral. Et cette crise, finalement, elle vient questionner cette question de la planification alimentaire et questionner le besoin d'une politique qui mettrait en lien nos besoins et nos dépendances alimentaires et des moyens de contrôler nos approvisionnements. C'est une question qui me semble politiquement complètement renouvelée.
Oui, et le chef de l'État lui-même l'avait évoqué, on s'en souvient, le 12 mars dernier. Il avait dit « déléguer notre alimentation, notre protection, notre capacité à soigner notre cadre de vie à d'autres est une folie ». Or, effectivement, on a une organisation internationale, européenne et française. D'ailleurs, c'est la question que je vais vous poser, Nicolas Bricasse. À quelle échelle cela repose-t-il ? C'est-à-dire, est-ce qu'on est dans une trop grande spécialisation de nos régions ou est-ce que c'est une question d'organisation internationale, comme avait l'air de l'évoquer à l'instant Catherine Darrow ?
On avait, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, on avait un projet qui était de construire une souveraineté alimentaire à l'échelle européenne. C'est ce projet qu'on est toujours en train d'essayer de jouer. Et en même temps d'avoir un espace suffisamment grand pour pouvoir se défendre aussi vis-à-vis d'autres continents ou d'autres grandes régions. Aujourd'hui, on a un peu une difficulté à faire vivre ce projet européen. On le voit au niveau de ce qui a été négocié récemment avec la politique agricole commune, où la tendance elle est plutôt d'abandonner un peu l'idée d'harmoniser les possibilités de chacun de pays à l'échelle européenne et de se replier un peu sur soi. Moi, il me semble que l'échelle européenne continue d'être la bonne échelle de raisonnement, à condition qu'effectivement la concurrence entre les pays se fasse pas de façon déloyale et que tout le monde applique les mêmes règles, en particulier environnementales et sociales.
Catherine Darrow, Nicolas Bricasse disait tout à l'heure qu'on a quand même la capacité de produire et que j'exagérais un peu en parlant d'extrême dépendance à l'égard de nos pays voisins. Mais quand même, force est de constater que nous importons la moitié des fruits et des légumes que nous consommons, qu'un tiers des poulets ont été élevés en Pologne, en Belgique, aux Pays-Bas, que 25% des porcs l'ont été en Espagne. Peut-être la raison tient-elle également, en plus de ce que vient de dire Nicolas Bricasse, au fait que nous vivons en France depuis plusieurs décennies maintenant, un déclin du nombre d'agriculteurs en France.
Je crois que le déclin du nombre d'agriculteurs, il est pas corrélé avec un déclin de la production. Chaque agriculteur produit plus qu'avant, dans des structures plus grandes. Ce qui se passe en fait, et qui vous mettra d'accord tous les deux, je pense...
Nous ne sommes pas en désaccord, je suis contente de poser des questions.
Voilà. Ce qui se passe, c'est que à la fois on produit énormément, mais à la fois depuis les années 80, on a re-questionné le projet des années 60 que Nicolas Bricasse décrivait tout à l'heure, ce projet de souveraineté alimentaire territoriale de l'Europe, et on a choisi à l'échelle européenne de prioriser les marchés globaux, la capacité exportatrice de l'Europe et le fait de commercer. À la fois au sein de l'espace européen et en dehors de celui-ci. Donc on est dans des situations où un territoire qui produit des tomates, par exemple, peut tout à fait consommer des tomates qui sont importées d'un autre territoire. C'est-à-dire que la question de la priorité territoriale, elle était étrangère à ce paradigme politique très marchand, très libéral qui nous accompagne depuis les années 80. En ce moment, il est en train d'être re-questionné. Cette question de la priorité territoriale et de la souveraineté alimentaire de chaque territoire ressurgit de façon très très puissante, comme dans les années 60, pour d'autres raisons. C'est historiquement très intéressant à souligner.
Merci Catherine Darrow. Merci d'avoir participé à cette émission. Dans la deuxième partie des bonnes choses, nous allons nous poser la question du gain d'autonomie. Comment regagner justement un peu plus d'autonomie et surtout comment le faire dans les villes, puisque se pose un problème spécifique à l'urbanisation en France. Vous restez avec nous Nicolas Bricasse. On va se retrouver juste après ce qui est la nouvelle Madeleine, la séquence des chefs derrière les portes closes. Après, nous verrons donc les solutions. Mais d'abord, cette séquence derrière les portes closes.
Profite une demi-patin, viens, on te le prend par deux barres. Ok, monsieur.
Et oui, les rideaux des cafés, des restaurants étant tirés depuis 8 jours, la Madeleine cède aujourd'hui sa place à une petite séquence dédiée aux chefs qui ont fermé leurs portes. Que se passe-t-il derrière les rideaux tirés? Matteo Caranta a contacté un chef confiné, en l'occurrence Hervé Bourdon, du petit hôtel du Grand Large à Quiberon, qui était notre invité le 13 septembre dernier, pour lui demander ce qu'il fait de ses journées pour éviter d'être un chef déconfit. Hervé Bourdon.
Les journées sont assez courtes en fait, hein, parce que finalement on se rend compte que même quand on travaille pas, on a pas mal de boulot. En fait, je me suis fait un petit plaisir un peu rigolo, c'est que je me suis acheté un nettoyeur à vapeur. C'est très drôle, hein. Et j'utilise ce nettoyeur à vapeur dans toute ma cuisine que je suis en train de nettoyer du sol au plafond. Ensuite, je vais faire un tour dans mes jardins. Hier, en l'occurrence, je suis allé faucher le sarrasin qu'on avait planté dans un des terrains. Puis voilà, et je cuisine les légumes pour la famille.
Vous avez 3 jardins. Vous avez le jardin des fleurs, le jardin des pommes, le jardin de la gare. Et alors, qu'est-ce qui sort de terre hein, cette saison?
Alors, c'est une saison qui est encore très très riche, hein. Et donc les jardins sont encore en pleine possession de leurs moyens. Ce matin, on a cueilli des poivrons, qui sont rouges pour beaucoup, verts pour d'autres. On a cueilli des choux, on a commencé à récolter quelques panais, on a du persil, du céleri branche, des betteraves, beaucoup de fleurs, des œillets, des gueules de loup, des herbes aromatiques, de la roquette. On a une quantité de choses incroyables, c'est une profusion insensée. Le paysage de nos jardins, il est remarquable en tout point, c'est que il est à peu près comme nos assiettes. Il change un petit peu chaque jour, c'est-à-dire que là, par exemple, on a eu beaucoup de feuilles d'une plante qu'on appelle l'amarante, qui est merveilleuse, qui est un peu violette et verte. La couleur de ces feuilles d'amarante en ce moment est un petit peu en train de passer, donc on est sur quelques fins de cycle. Et puis quelques pics de cycle pour les panais, pour toutes les racines qui commencent, pour les poireaux qui sont merveilleux, qui sont éclatants. Et quand on se promène dans les jardins en ce moment, arriver l'automne et arriver les premiers petits froids comme ça, même si on est très à l'abri sur la presqu'île de Quiberon, c'est vrai que quand on marche dans un jardin, on se dit qu'on va plus trouver grand-chose parce que c'est l'hiver qui arrive, et alors que c'est tout l'inverse en fait. Par exemple, les feuilles de salsifis dont les racines sont en train de plonger en terre, elles sont d'un vert absolument luisant et généreux. On est sur des paysages qui sont luxuriants en fait, encore, et très fleuris, étonnamment.
Eh bien, très très bon appétit Hervé Bourdon, merci beaucoup.
Merci.
Dans mon jardin l'hiver.
Et merci à Matteo Caranta pour cette petite bulle qui nous permet de nous évader au bord de la mer grâce au chef Hervé Bourdon. Deuxième temps de ces bonnes choses consacrées aujourd'hui aux fragilités de notre système alimentaire. Nous sommes toujours avec Nicolas Bricasse qui est chercheur au Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement et titulaire de la chaire UNESCO Alimentation mondiale. Et nous a rejoint Christine Aubry qui est chercheuse à l'INRAE, professeure à AgroParisTech où Christine Aubry vous dirige une équipe de recherche sur les agricultures urbaines. Bonjour à vous.
Bonjour madame, bonjour Nicolas, que je suis très heureuse de retrouver.
Eh ben voilà, c'est dit. Christine Aubry, justement, vous entendiez cette petite pastille enregistrée par Matteo Caranta à l'instant. Hervé Bourdon parlait des jardins, en l'occurrence son jardin ou ses jardins, puisqu'il en a 3, ses jardins d'hiver. Est-ce qu'on peut parler de jardins d'hiver en ville, puisque vous en êtes une spécialiste?
Alors oui, on peut parler d'agriculture urbaine et parmi l'agriculture, enfin au sein de l'agriculture urbaine, les jardins privés mais aussi collectifs font partie bien sûr de l'agriculture urbaine. Ce n'est pas du tout la seule forme. La première forme d'agriculture urbaine, c'est d'abord les fermes périurbaines en circuit court.
Voilà. On en compte 300 aujourd'hui en France.
Oui, on a des difficultés aujourd'hui à avoir des statistiques très précises. Un recensement général de l'agriculture est en cours et j'espère qu'on aura une fin 2020, début 2021, une vue plus précise de l'intégralité des formes d'agriculture intra-urbaine et périurbaine en lien avec la ville.
Alors avant que vous nous disiez à quoi ressemble cette agriculture urbaine et en quoi surtout c'est une contribution importante à la sécurité alimentaire, pouvez-vous nous dire, Christine Aubry, en quoi il y a en France un problème spécifique aux villes? On a parlé pendant le premier confinement de 3 jours d'autonomie pour des grandes villes comme Paris par exemple. 3 jours d'autonomie, ça paraît très très peu.
Oui, alors je reprends un petit peu ce qu'a dit Nicolas et ce qu'a dit aussi Catherine tout à l'heure, c'est-à-dire oui, à la fois c'est peu et on peut faire tout à fait mieux relativement facilement à l'échelle des territoires, des autour des villes, mais aussi à l'échelle nationale. Bon, c'est peu, mais parce que on a déconnecté au cours de l'histoire récente l'agriculture et la ville. Mais il n'est pas très difficile de les reconnecter. Ça dépend beaucoup quand même de décisions politiques portant notamment sur le foncier agricole autour des villes.
Nicolas Bricard, un mot sur la spécificité des villes, des territoires qui sont des territoires plus urbains aujourd'hui.
Mais historiquement, l'histoire des villes, c'est en partie pour quelques villes, des villes qui s'installent sur des grands bassins de production alimentaire et qui vont s'approvisionner sur ces bassins. Mais c'est aussi la très grande majorité des villes dans le monde, elles s'installent sur des espaces de transport, elles s'installent sur des fleuves ou elles s'installent en bord de mer pour bénéficier de la possibilité de se faire approvisionner à longue distance. Et c'est vraiment inhérent à l'histoire des villes. Fernand Braudel, l'historien du capitalisme, raconte ça très très bien dans ses ouvrages, comment les villes finalement, qui ne produisent pas leur nourriture sauf les légumes frais, et éventuellement la volaille en périphérie de la ville, mais comment ces villes ont organisé leur approvisionnement par des échanges lointains. Et il me semble que c'est intéressant à garder en tête, si on regarde aujourd'hui quelle est la capacité des départements français à nourrir leur population. Donc on regarde la quantité consommée dans le département, on le divise par les rendements obtenus dans le département, et on obtient les surfaces agricoles nécessaires pour nourrir la population du département. La moitié de la population française vit dans des départements dont la surface agricole ne permettrait pas de nourrir cette population si on reconvertissait toutes ces terres pour produire ce qu'on consomme dans le département. Ça veut dire qu'on a besoin de combiner une relocalisation de notre alimentation, parce qu'il y a une absurdité à aller la chercher parfois très loin alors qu'on peut la produire localement, mais en même temps, on est condamné à devoir réinventer des façons plus solidaires de se connecter avec des agriculteurs qui sont pas forcément à proximité de la ville.
Trouver aussi un compromis, j'imagine, entre la rediversification des territoires et cette tendance à la spécialisation.
Tout à fait. On a besoin d'un point de vue écologique, d'un point de vue environnemental, de rediversifier les productions et de limiter les monocultures à perte de vue dans certains territoires. Donc ça, c'est un besoin environnemental pour retrouver de la biodiversité et réduire l'impact environnemental. Mais de l'autre, il y a un certain intérêt à spécialiser. Il y a des régions, des départements, des zones qui se sont spécialisées, qui ont des savoir-faire particuliers, que d'ailleurs la France a beaucoup milité à défendre avec par exemple les indications géographiques, les appellations d'origine, pour valoriser ces savoir-faire locaux. Donc c'est normal qu'on ait des régions qui se spécialisent, c'est plus facile de faire du vin autour de Montpellier que d'en faire autour de Lille. Donc on a cette tension entre d'un côté un besoin de rediversifier pour des raisons environnementales et de l'autre côté un certain intérêt à spécialiser, mais on l'a fait jusqu'à présent, et en tout cas ces dernières décennies, on l'a fait à outrance.
Voilà, parmi quelques solutions donc pour favoriser l'autonomie alimentaire de nos territoires, Christine Aubry, est-ce que l'agriculture urbaine, dont vous êtes la spécialiste, s'inscrit dans le cadre de ces solutions pour imaginer une meilleure autonomie alimentaire de la nation française ?
Oui, tout à fait, elle s'inscrit, mais c'est le bon terme, c'est-à-dire qu'elle ne prétend pas, dans ses formes intra-urbaines ou périurbaines proches, arriver à une autosuffisance absolue. Par contre, elle y contribue à la fois quantitativement, notamment à travers les fermes périurbaines et la reconstruction de ceintures vertes, donc de réinstallation, finalement, de maraîchage autour des villes. Ça, c'est quelque chose qui est en...
Christine Aubry, on vous a perdu. On va essayer de vous reconnecter à nous, soit par téléphone, soit d'une autre façon. Nicolas Bricard, vous pouvez peut-être prendre la relève tant que nous essayons de retrouver Christine Aubry. Elle était en train de dire qu'on pouvait travailler sur les ceintures vertes. On me dit que Christine Aubry est à nouveau là. Christine Aubry, vous êtes là.
Bon,
pardon, vous avez perdu. J'allais donner la parole à Nicolas Bricard, voilà. Mais j'ai aucun problème. C'est les joies du direct de cette façon à distance. Donc, la ceinture verte.
Oui, alors les ceintures vertes, ça veut dire donc remettre du maraîchage, en particulier autour des villes. Et ça, ça nécessite de garder des exploitations agricoles autour de ces villes, vraiment à proximité. Ça nécessite aussi d'avoir de la main-d'œuvre, donc des agriculteurs qui s'installent et des salariés agricoles qui puissent s'installer. Aujourd'hui, très souvent, c'est très difficile, compte tenu notamment des prix des logements autour des villes. Ça, c'est le premier volet. Vraiment, les ceintures vertes, c'est quelque chose qui est aujourd'hui en train de prendre beaucoup d'importance. Ensuite, on peut faire de l'autoproduction. Vous parliez en début des jardins. Aujourd'hui, il y a une demande absolument considérable des urbains pour avoir accès à de la terre. Alors, c'est pas forcément une autoproduction quantitativement très importante, encore que on peut être relativement productif sur de toutes petites surfaces si on a le temps de s'occuper de son jardin collectif, par exemple. Aujourd'hui, les jardins familiaux, les jardins partagés connaissent un essor absolument important, mais ils sont surtout des lieux de resensibilisation à l'alimentation, et c'est ça qui me paraît important. Et puis, je dirais, troisième volet, si vous me permettez juste un tout petit instant. On a eu beaucoup de, j'allais dire, de fantasmes au cours des dernières années sur la possibilité de faire de l'agriculture qu'on appelle en bon français indoor au sein des villes, c'est-à-dire dans des bâtiments, sous des formes très contrôlées en termes d'environnement, LED, chauffage, etc., etc. Alors, il y a certaines formes qui peuvent aujourd'hui contribuer effectivement à l'alimentation sur certains produits. Je pense aux champignons, aux endives, tout ce qu'on appelait les produits de cave dans un passé récent, qui s'adaptent très très bien au milieu intra-urbain. Par contre, je dirais les tours à salade et autres choses comme ça n'ont pas un grand développement dans notre pays, d'abord et avant tout parce qu'elles sont pas efficientes sur le plan ni économique ni énergétique, et qu'elles poseraient quand même un problème, alors là pour le coup, d'ordre politique agricole total, qui est la concurrence possible avec le périurbain. Donc voilà, aujourd'hui on est sur des formes d'agriculture urbaine qui sont à la fois intéressantes sur le plan quantitatif, mais surtout sur le plan qualitatif, qui peuvent permettre de faire cette reconnexion dont Nicolas parlait avec les agriculteurs en général. Et puis on est sur certains volets très particuliers sur du développement de nouvelles productions. On parlait, je crois, tout à l'heure de l'indépendance en termes protéiques. Ben, une des voies de conquérir un peu plus d'indépendance en termes protéiques par rapport à l'élevage français, c'est par exemple de faire des aliments pour animaux à base d'insectes. Insectes qui ont la bonne idée de manger nos déchets organiques urbains. Voilà, ça fait partie des leviers.
Ça fait partie des leviers, en effet, ça n'est pas le levier. On n'a pas l'espoir de nous nourrir tous en France avec seulement l'agriculture urbaine, on l'a bien compris, mais avec la réorientation du foncier agricole vers des productions locales et variées, l'enrayement, la fin du déclin de la production ou de la profession agricole, les circuits courts et les stocks, la meilleure gestion des stocks, voilà. Autant de solutions abordées dans cette émission, disons, pour regagner un peu plus d'autonomie alimentaire. Merci beaucoup à tous les deux, Christine Aubry et Nicolas Bricas, d'avoir participé à cette émission qui touche à sa fin. Une émission qui touche à sa fin, mais qui s'écoute et se podcast sur franceculture.fr et sur l'application de Radio France. Toute l'équipe, Roxane Poulin, Stéphanie Villeneuve, Matteo Caranta, qui l'on souhaite un très joyeux anniversaire, Jean-Christophe Francis et notre technicien du jour, Théo Gomard, vous souhaite un excellent dimanche à l'écoute de France Culture.